Radio Canut présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Père. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVR. Et il buvait comme eux. Ce qui fait qu'il rentrait à la maison, ivre, il arrivait même de vomir au lit.
Ça ne va pas.
Le foie.
Un blanc sec.
Un Gabriel Mouchy, je vous demande blanc sec, si vous êtes.
Deux blancs secs.
Tu bois trop.
Je sais.
Il lui arrivait de temps en temps d'amener ma mère au cinéma, cinéma de quartier à Saint-Fons.
Polichinelle attendra.
Fais-moi ça, génie.
Elle a quitté ses villes, et dans toute la ville, c'était la plus agile
de toutes les gitanas.
il en était plus belle. Mais elle avait pour elle une chose exceptionnelle que les autres n'avaient pas. Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait de dans ses bras. Ce qui les troublait mal extrêmement, et les rendait fous de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala, petit si tralala, que nulle part y en avait un comme ça.
Une dièse, mon ami! Une dièse!
C'est pas écrit!
Donnez! Regardez, Léo, une faute de copie.
Ça m'aurait étonné!
Alors on enchaîne ou on n'enchaîne pas?
Mais dépêche-toi, génie, les animaux attendent!
Avec son tralala, son petit tralala, elle faisait tourner toutes les têtes. D'un coup de tralala, elle faisait tralala, et chacun rêvait d'être dans ses bras. Ce qui les troublait dans les crèmes, de désir. C'était pas la chose en elle-même, c'était la façon de s'en servir. Avec son tralala, son petit tralala, elle n'avait pas besoin de castagnette, car son petit tralala était si tralala que nulle part y en avait un comme ça. Un jour sous les arcades, elle eut une autre focade. Pour Don Pedro, l'alcade, à cause de ses gros bras, loin de se laisser séduire, il est un petit sourire qui avait l'air de dire, pourquoi tu ne m'auras pas avec son tralala, petit tralala, petit tonnel de nuit en campagne, d'un coup de tralala, et le petit tralala, et Pedro brusquement s'emballa. Pour aussi d'avouer sa défaite, Pedro reconnut loyalement. Elle avait une arme secrète, avec des espèces foudroyantes. Avec son tralala, petit tralala, elle aurait fait trembler des montagnes. Car son petit tralala était si tralala que Pedro le lendemain l'écouta.
La nuit et le jour, je pense toujours à la créole. Les cheveux crépus, les lèvres lifues, moi je m'en raffole. Dans une paillotte d'elle est née sous un cocotier. Et puis elle vint à Paris pour changer de quartier. Sa belle couleur chocolat me met dans des états, je ne vous dis pas. Son nom est Goulou Goulou, ce qui veut dire un zoulou, mon petit rose doux. Elle est toute à moi, et je suis le roi de ma créole. Je dors dans les tours.
Lorsqu'il était à la maison, les jours ou les heures de congé ne supportaient pas que sa femme fasse la lessive ou lave par terre. Alors ma mère, pour ne pas l'incommoder, se levait très tôt avant de partir à son travail pour faire le linge. À cette époque, les machines à laver étaient très rares et chères. On lavait tout à la main et faisait bouillir dans des lessiveuses pendant des heures, été comme hiver, sur la cuisinière à charbon, puis l'on frottait le linge avec une planche en bois ou une brosse à chien dents. Mon père ne supportait pas que ma mère reçoive ses amis. Il se sentait gêné par elle et avait peur qu'elle le critique. lorsqu'elle sonnait. Il empêchait ma mère d'ouvrir, ce qui fait que petit à petit, elles ne vinrent plus. Petit à petit, même sans que lui s'en aperçoive, il isolait ma mère, il l'isolait du monde, il l'isolait de tout. Ce n'était pas par méchanceté qu'il le faisait, mais par peur qu'elle le critique ou que les autres le critiquent. J'ai oublié une chose, c'est que la villa était neuve et qu'au début de leur mariage, il n'y avait pas d'eau courante. Il fallait aller à la fontaine de la rue pour en chercher. Mon père n'y allait jamais. C'était ma mère qui se payait toujours ce travail et ce trajet qui était aussi assez long. Au bout d'un moment, mon père ne veut plus que ma mère travaille. Elle obéit, mais cela faisait plus de la moitié de l'argent qui rentrait à la maison. Heureusement, ma mère, par des connaissances, fait rentrer mon père à Roudepoulenc. Mais il doit malheureusement faire les 3-8, ce qui dérègle toute leur vie. Un jour, mon père rentre à la maison. Il ne la trouve pas. Il court à l'église. Dans le confessionnal, en train de se confesser. D'un coup, il la prend par le bras, la tire et la fait sortir dans l'église à grands coups de pied aux fesses. Lui interdit de passer des heures à l'église. Craignait surtout que ma mère ne se plaigne de lui au curé. Encore une chose que ma mère ne lui pardonnera pas. Tout à coup, ma mère se trouve seule, sans amis, sans travail, travail extérieur, sans l'aide religieuse, elle se mit à déprimer. Après une fausse couche, elle mit au monde un garçon. C'était moi, enfant prématuré qui n'avait pas bien envie de vivre. Je suis né à l'Hôtel Dieu. Ma mère était trop faible, une religieuse essaya de me faire manger. Je ne mangeais pas avec entrain, alors elle me donnait des petits coups avec l'appareil qui savait écouter le cœur. ce qui mettait en fureur ma mère. Mon père était très heureux de me voir et portait toutes ses espérances sur moi. Le pauvre, je n'ai fait que de le décevoir. Le couple semble aller mieux. Mère devient mère poule, père chef de famille. Un an plus tard, une petite sœur naît. Vivace, dégourdie, mais ma mère l'aimait moins car elle était brune et moi blond. Puis, deux autres petits frères sont venus agrandir la famille. Mère avait beaucoup de travail avec cette grande famille. Père, à cause de ses 3-8, passait la plupart de son temps à dormir. En plus de ses enfants, mère devait s'occuper des frères et sœurs et de son père. Cela énervait mon père qui voulait vivre seul avec sa famille, sans être constamment dérangé. Alors, il chercha un appartement. C'était pas facile de trouver un appartement. La construction reprenait petit à petit. Un jour, par hasard, alors qu'il se trouvait dans le car pour rentrer chez lui, il voit que l'on construit un immeuble au 49 route de Vienne dans le quartier du Grand Trou. Il se renseigne, on lui dit que c'est des copropriétés, que déjà tout est vendu. Il demande si l'on peut faire un étage supplémentaire. Après des démarches, c'est accepté. Plusieurs mois plus tard, nous avons un étage à nous tout seuls. En cachette, en plein mois de juillet, nous avons déménagé. La vie changea pour nous. Nous étions enfin chez nous. Père ne demandait qu'une chose, c'était d'avoir la tranquillité. Mais mère, pour la première fois où elle s'était trouvée enfin chez elle, où elle pouvait dire, faire ce qu'elle voulait, et ceci pour la première fois de sa vie, elle se mit à avoir la folie des grandeurs. Elle voulait que l'on vive bourgeoisement et avait la manie de la propreté. Elle frottait toujours, interdisait le moindre désordre. Lorsque mon père arrivait à la maison, il ne pouvait ni toucher, ni faire quoi que ce soit de peur de salir. Et comme il faisait les 3-8, il passait son temps à dormir. Pour nous les enfants aussi, nous devions jouer sans faire de bruit, ni rien déranger. ni à rien déranger.
La confiture.
Ma mère me mit dans une école privée. Dès le début, l'école marcha pas pour moi. Mon père fut très déçu. Il aurait aimé que je poursuive des études, mais il ne disait rien à cause de mère qui ne supportait pas qu'il se mette en colère contre ses enfants. Puis ce fut mes frères et sœurs qui allèrent à l'école et étaient tout autant décevants que moi. Ils eurent un cinquième enfant, une petite fille. Ma mère pratique toujours son devoir conjugal avec dégoût. Les enfants, au lieu de consolider le couple, le désunit encore plus. Mère s'accroche à ses enfants. Elle les veut pour elle et qu'ils soient de son côté. Pour cela, elle les montre contre le père, leur fait croire qu'il est brutal, qu'elle est très malheureuse par sa faute, qu'elle n'a plus d'amis, ne peut pas sortir, etc. Avant que le père n'entre à la maison, elle leur dit de rester tranquille car il va arriver. Et au fur et à mesure que le temps passe, lorsqu'il rentre chez lui, le père se sent l'étranger que l'on entend avec effroi. À chaque fois qu'une décision est à prendre, on ne lui demande plus son avis. Ses enfants, sa femme ne lui parlent pas. Il entre, on lui sert à manger en silence et il va se coucher. Cette fille le rendrait fou s'il n'y avait pas eu son travail. Alors, de temps en temps, il boit, frappe au hasard, pour prouver qu'il existe. Il ne parle plus, il crie, puis reste un moment muet. De temps en temps, le dimanche matin, il m'emmène au marché aux puces. Là, il achète des accessoires pour pouvoir fabriquer des postes à la galène. Ces postes qui marchent sans électricité, que l'on branche au robinet de l'évier. Puis, les années passent, les enfants sont décevants, la femme vit comme une étrangère. L'on quitte l'école et l'on entre en apprentissage comme l'on peut. Les années ont passé, père a vieilli, abêti par les 3-8, le corps vide, sans l'affection de ses enfants ni de sa femme, vivant dans sa famille comme un étranger. La vie a filé comme cela. On se retrouve tout bête sans avoir vécu. L'âge de la retraite arrive. La mère avait peur de vieillir. elle se rend compte qu'elle n'a pas vécu juste pour ses enfants et qu'ils l'ont déçue. Elle a peur de vivre seule avec père, sans les enfants. Le père se retrouve à la retraite. Il pensait qu'il pourrait refaire sa vie seulement avec sa femme, sans les enfants. Il aimerait les voir partir de la maison et que la mère le retrouve. Père s'ennuie à la retraite, rêve de voyage avec mère, mais ne veut pas quitter sa maison. La mère fait une dépression, la peur de vieillir, de ne pouvoir faire son travail. Son ménage plutôt. Elle se soigne à la maison. De la voir malade, cela énerve père. Cela l'énerve de la voir dépérir à cause qu'il se trouve à la retraite. Les enfants quittent la maison et mère reste seule avec père. L'état de mère s'empire. Il ne supporte pas d'être seul avec père. Un jour, elle n'a plus goût à rien et ne veut plus sortir de son lit. Elle ne pense qu'à la mort. Père ne sait que faire. Et un matin, mère dit à père qu'elle va faire son marché. Elle se lève. Prend un porte-monnaie et sort. On ne l'a plus jamais revue. Le soir même où elle a disparu, c'est mon frère qui est venu me prévenir. La police a été prévenue, on a téléphoné aux hôpitaux, à ses amis, rien. On a espéré pendant une semaine, puis un après-midi, père vint me chercher pour que j'aille habiter avec lui. Il ne supportait plus de vivre seul, entendait des voix qui le traitaient d'assassin. La nuit, il ne pouvait dormir à cause des voix qu'il ne supportait, et il ne supportait plus l'appartement. Une fois même, il passa la nuit à le retapisser. Père devenait une loque. Venait le voir aussi mon petit frère. Je dois dire que malheureusement, mon frère était fou. Il ne voulait pas que je restasse seul avec père. Alors, à chaque fois qu'il venait chez père, il me ramenait chez moi. Mon frère savait flatter père et avait tout ce qu'il voulait. Comme je voyais mon père mal en point, je téléphonais à son médecin et lui expliquais ce qui en était. Le médecin alla le voir et le soigna. La voix et l'éthique disparurent. Le temps passe, toujours pas de nouvelles de mère. La préfecture, après 6 mois de recherche, fait un mot à mon père disant qu'elle ne l'avait pas retrouvé. Je n'allais plus chez mon père puisque mon frère y était souvent. Un jour, mon frère décida à mon père de vendre l'appartement et d'acheter une villa à 60 kilomètres de Lyon. J'étais contre ce déménagement, mais je n'y pouvais rien. « Maintenant, tu vis dans cette maison. Au début, tu étais content. Tu disais que tu allais pouvoir enfin faire du jardinage que tu en rêvais depuis longtemps. Malheureusement, tu as vite désenchanté. On ne devient pas jardinier du jour au lendemain. Faut connaître et c'est dur. Tu arrêtas très vite. Ton jardin est vite devenu en une friche. Quant à la maison, le ménage n'a jamais été ton fort. Et puis, entre des dépressions, ta colère contre mon frère qui vit de plus ou moins avec toi et à tes crochets, il travaille peu et dépense beaucoup, mais la peur de père de vivre seul lui fait passer tous ses caprices. Entre la santé, les crises, les folies du frère, père sent la fin venir avec effroi. Parce qu'il n'a pas vécu, il voit que sa vie est gâchée. Maintenant, sur cette route où je vais rejoindre père qui est souffrant, j'ai honte et je me sens coupable de n'avoir rien fait pour toi. Pauvre père, dans quel état vais-je te retrouver? Si je n'avais pas eu mon frère pour m'empêcher de m'occuper de toi, me serais-je occupé de toi? Je suis comme les autres, égoïste. Dans quel état vais-je te retrouver? J'ai peur. Peur d'être obligé de m'occuper de toi. Peur de ma lâcheté. Et plus sur la route, et plus je m'approche de toi, plus j'ai envie de m'éloigner. Car j'ai fait ma vie. Et en allant chez toi, j'ai peur de te retrouver les angoisses passées. Cette atmosphère dure et tendue qu'il y avait à la maison, où deux mondes s'affrontaient. Celui de la mère et celui du père. Me voici arrivé. La maison semble délabrée au milieu d'une nature inhospitalière. Il ne pleut plus. Je vais sonner à la porte. C'est mon frère qui m'a ouvert. La maison sent le pipi de chat, le renfermé et un tas d'autres choses. Bonjour Roland, comment va père?
Père, ça va bien.
Je vais retrouver père dans la salle à manger. Je retrouve père en robe de chambre au sol dans la salle à manger. Bonjour père, comment vas-tu?
Ça va.
Je l'embrasse, le trouve vieilli. En réalité, père et mon frère se sont disputés et pour faire diversion, le frère m'a appelé. En voyant dans l'état lamentable où était mon père, je lui dis que j'allais m'occuper de lui. Il trouvait une femme de ménage et le menait chez le médecin. Mon frère a bien crié et a dit que ça ne valait pas la peine. J'ai tenu tête et je lui ai dit « Père n'a pas eu une vie heureuse et je veux lui donner une bonne retraite. Et c'est pas toi ni personne qui m'en empêchera. » Malheureusement, ce que je viens de dire, ce n'est qu'en rêve. Et ce que je devrais faire en arrivant chez mon père, je suis encore sur la route. Je sais que je me conduirai comme d'habitude en lâche, lâche de prendre une décision, de les exécuter, lâche de ne pouvoir m'occuper de père. Et comme d'habitude, je le laisserai à mon frère fou. Je suis coupable du malheur de mon père, comme je l'étais enfant en le décevant pour l'école et en ne prenant pas parti pour lui. J'ai tué mon père à petit feu par lâcheté, lâcheté, lâcheté. Je suis arrivé, je vais sonner. C'est mon frère qui m'a ouvert, la tête en feu, mais lucide. J'ai dit pour de bon cette fois, où est père ? Père, je vais m'occuper de toi désormais, tu auras une belle retraite. Calme et tranquille. Les jouets m'ont dit, mon Dieu, faites que ce soit vrai. Radio Canut vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le Père. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, c'est...